I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Della Posta et aujourd'hui avec Stéphane Vrignot, on va accueillir un invité de marque, un triple vainqueur des 24 heures du Mans, double champion du monde d'endurance, champion en Formula E et détenteur de 55 départs en Formule 1. Bon, vous l'avez déjà tous deviné et même reconnu, Sébastien Buemi est dans les fous du volant aujourd'hui. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Bon, on est ravis de vous accueillir. Alors évidemment, on va revenir sur l'actualité en endurance, hein, puisque vous êtes à Bahreïn, on va parler de Formula E, de l'équipe IDAMS, et puis on va aussi parler de Formule 1 et de ce Grand Prix du Mexique. Stéphane, t'es prêt? T'as sorti ton sombrero pour aller à Mexico City?
Et les Santiago, etc. Ouais, on va faire tous les clichés.
Magnifique. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière-là, eh bien, dès que on produira un nouvel épisode des Fous du Volant, eh bien, ça arrivera directement sur votre smartphone. On commence donc par parler d'endurance en compagnie de Sébastien Buemi. Il y a eu les 6 heures de Bahreïn samedi dernier que vous avez terminé à la deuxième place avec vos coéquipiers Stéphane, Sébastien. Juste une petite question déjà, je parlais de votre palmarès et de votre parcours. En fait, vous avez presque touché à tout sur circuit.
Ouais, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de rouler dans pas mal de voitures et de compétitions. Là, j'ai la chance de pouvoir faire ce double programme Formula I et Endurance avec Toyota. Donc, d'être dans une super équipe pour l'Endurance, se battre pour la victoire au général aux 24 heures du Mans, le championnat d'Endurance et aussi, bien entendu, dans une super équipe de Formula I. Et on va dire encore en parallèle de ça, je reste malgré tout pilote de réserve pour Red Bull en faisant pas mal de simulateurs de temps à autre, quelques tests pour les pneus Pirelli. Donc, ça me permet en fait de continuer de rouler dans ces belles voitures.
Stéphane, on se disait en se préparant l'émission, il y a un qualificatif qui parle de la personnalité de Sébastien.
Fidèle. Une écurie en Formule E, une écurie en WEC et une écurie, la Galaxy Red Bull, en Formule 1. C'est extrêmement rare aujourd'hui. Et je dirais qu'au-delà de cette notion de fidélité, il y en a une autre derrière ça, c'est finalement la loyauté. C'est aussi ça qui est très important et c'est le fil conducteur de votre carrière.
Ouais, c'est vrai que les choses. J'ai eu de la chance, on va dire, de pouvoir intégrer le programme Red Bull à l'âge de mes 14 ans. Donc j'en ai 33 depuis avant-hier. Donc c'est sûr que ça fait déjà pas mal d'années que je fais partie de la famille Red Bull et je fais toujours partie actuellement et ça sera encore le cas dans le futur. Donc on va dire ils m'ont vraiment aidé à arriver là où je suis aujourd'hui. Et ensuite avec Toyota, c'est sûr que c'est aussi une longue histoire maintenant. Ça fait 10 ans que je suis pilote Toyota en endurance. J'avais eu même des discussions avec eux à l'époque de la Formule 1. Donc c'est une belle histoire, on a gagné pas mal de courses ensemble, on a aussi perdu, mais dans l'ensemble c'était bien. Et puis voilà aussi, depuis maintenant 8 saisons avec Dams, Nissan IDAMS en Formule 1, ça aussi là ça fait longtemps, j'étais très proche de Jean-Paul Driot depuis mes tout débuts presque en sport mécanique, donc je le connaissais depuis longtemps et voilà, j'ai eu pas mal de succès là où je suis, donc il n'y a pas forcément besoin de changer si ça va bien là où on est.
Alors, si on s'intéresse à l'endurance, finalement, après l'avant-dernière épreuve de la saison qui a eu lieu samedi dernier et avant la dernière qui aura lieu samedi et prochain, il y a 15 points d'écart, sachant qu'entre la première et la troisième place du championnat, il y a 15 points. Autrement dit, là, il va falloir aller absolument chercher la pole pour avoir encore une chance pour vous et vos coéquipiers. C'est un truc que vous prenez en compte ou ça y est, de toute façon, le titre pilote, il est pour les coéquipiers et on n'en parle plus?
Ouais, alors bon, c'était un peu une déception hein, pour nous samedi passé. On avait fait la pole et ensuite voilà, on a beaucoup dégradé les pneus. En WEC, maintenant, depuis quelques saisons, le nombre de trains de pneus est très, très limité pour une course. Et on sait que Bahreïn, surtout que les nouvelles voitures, les hypercars, voilà, ça dégrade pas mal les pneus. Et on était à chaque fois bien sur le premier relais, mais comme on doit faire deux relais avec les pneus pour arriver au bout de la course, on a beaucoup souffert sur la dégradation et malheureusement, on n'a pas réussi à tenir le rythme de la 7. Donc notre voiture sort. En plus, on a perdu pas loin de 30 secondes au pit stop à chaque fois pour des petits problèmes, des petites erreurs. Donc c'est sûr que c'était un petit coup. Maintenant, il nous reste encore, on va dire, une petite opportunité. C'est déjà, il faut gagner, là, il faut faire la pole position. Et ensuite, voilà, il faudra gagner la course. Après, si la voiture sort, termine deuxième, bah, elle sera championne. Si elle termine troisième, on a encore une opportunité. Mais voilà, en toute vraisemblance, ça sera très difficile d'aller gagner le titre pilote. Mais voilà, tant que ce n'est pas fini, nous, on se concentrera sur notre course. On va faire le maximum. On travaille déjà dur depuis 2 jours hein, sur qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour ce week-end. Et puis, on verra bien. Hein.
Vous êtes libre de faire la course là entre les deux équipages pour la dernière course?
Voilà, on est libre. Ça, c'est vraiment sympa de la part de Toyota parce que voilà, on a gagné le titre constructeur le week-end passé. Maintenant, le titre pilote se jouera entre ceux de la 7 ou la 8. Donc, c'est vrai que c'est sympa de nous laisser faire des choses, on va dire, un peu exotiques au niveau de la stratégie. Si ça peut tout d'un coup nous permettre de créer un petit peu la différence, il nous laisse faire pas mal de choses. Donc, on est content avec ça. Maintenant, à nous d'essayer de trouver la meilleure stratégie possible pour se battre pour la victoire.
On parlait de la loyauté, justement, moi j'y reviens un tout petit peu, mais ça signifie aussi comprendre les intérêts supérieurs de l'employeur, du constructeur, et accepter aussi des consignes d'équipe. C'est aussi une preuve de maturité, finalement, de traverser le temps et de comprendre toutes ces choses-là et de s'insérer dans des plans de course qu'on n'avait pas toujours pensé, mais sachant que le temps de la victoire reviendra. Donc il faut comprendre les intérêts de tout le monde, finalement, et de l'autre équipage aussi.
C'est vrai qu'en endurance, on va dire, la dynamique est un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, ou, on va dire, de faire en monoplace. Là, on roule vraiment pour le constructeur. Et voilà, si on demande à n'importe qui de nommer les vainqueurs des 24 heures, c'est plus facile de nommer Toyota, Audi, Porsche que forcément le pilote. Donc, c'est à nous, bien entendu, on est des compétiteurs. Je suis un compétiteur, je déteste perdre. Je veux toujours gagner, je veux toujours faire le maximum pour pouvoir gagner, mais il y a des fois où malheureusement ça dépend pas que de moi et il faut savoir encaisser des fois les coups, même si c'est pas toujours facile. Après, bon ben voilà, maintenant la 7 est sur une bonne dynamique depuis une année et demie. Nous on a été sur une très bonne dynamique pendant plusieurs années en gagnant 3 fois d'affilée les 24 heures. Malheureusement, c'est des fois comme ça, mais à nous de faire le maximum pour rester au top et maintenant aussi. On va dire qu'à partir de 2022, bah, il y aura déjà l'arrivée de Peugeot en endurance, l'arrivée possible aussi de Porsche en fin de saison, et 2023, l'arrivée de tous les constructeurs. Donc là, ça va devenir très, très dur. Et nous, on ne pense pas forcément à demain. Alors bien sûr, on veut gagner le titre, mais on pense vraiment aussi à 2023, là où il y aura vraiment beaucoup de compétition, d'essayer d'être capable d'amener le team au plus haut niveau possible avant l'arrivée des gros constructeurs.
Et justement, alors, l'arrivée effectivement de Peugeot l'année prochaine, et puis ensuite de Porsche, d'Audi, de Ferrari, de Cadillac, de BMW aussi, je crois. Enfin, il y a vraiment une grosse arrivée. Vous la vivez comment chez Toyota? Vous êtes impatient ou un petit peu, je ne sais pas comment dire, vous avez le trac parce que pour l'instant, vous êtes les gros du championnat. Quand les autres vont arriver, ça va être beaucoup plus difficile.
Alors ça, c'est clair. Alors, je trouve qu'on a une bonne. Après voilà, on verra si ça paye, mais on a une bonne vision de la chose. On est assez réaliste, c'est-à-dire on est conscient qu'on fait des choses bien. On avait vu encore en se battant contre Porsche et Audi que ben voilà, on était vraiment bien, même si on n'avait pas forcément les mêmes moyens et les mêmes budgets. Par contre là, on garde en tête que ça va être très difficile, que c'est une sorte de nouvelle catégorie avec l'entrée de la BOP. C'est une nouvelle manière, on va dire, de chercher de la performance et d'optimiser la performance de la voiture. Donc, on essaie de se préparer le mieux possible. Ça ne veut pas dire qu'on sera les plus forts et qu'on continuera de gagner. Mais en tous les cas, on a conscience qu'on veut absolument augmenter notre niveau, même si aujourd'hui, sur le papier, ça a l'air facile de gagner. On est conscient que ça va devenir très difficile et on veut être vraiment prêt à 100% le jour où ça sera très difficile. Donc, je dirais qu'on a une bonne attitude. En tout cas, de mon point de vue, je trouve que c'est une attitude très correcte. Maintenant, il faudra voir si le jour où les autres arrivent, on est toujours aussi bon.
Alors, vous parliez de la BOP, juste 2 secondes, Stéphane, après je te donne la parole. La BOP, c'est la balance de performance pour essayer d'équilibrer les performances justement entre diverses autos, hein. Il y aura plusieurs catégories. Alors, je le dis pour ceux qui ne sont pas tout à fait au fait de l'endurance. Stéphane.
Là, il y a des grands noms qui vont arriver, on les a cités. Est-ce que ces grands noms ne se renseignent pas sur les échéances, des contrats des meilleurs pilotes du moment, forcément, et ça fait peut-être plaisir d'être démarché, et puis de rester aussi chez Toyota. Vous êtes booké avec Toyota jusqu'à quand?
Alors, on communique d'année en année en général, et je sais que Toyota va communiquer sur les pilotes relativement prochainement, annoncer les pilotes de l'année prochaine. Donc, voilà, je ne suis pas trop autorisé à parler de ces choses-là. Mais disons, voilà, ça fait longtemps que je suis avec Toyota et ça se passe bien, donc il n'y a pas de raison de changer ça. Maintenant, c'est sûr que voilà, on voit déjà pas mal de gens de chez Audi avec WRT, qui est une des équipes de LMP2. On sait que l'année prochaine, AF Corse, qui est l'équipe Ferrari, engagera une LMP2 en WEC ou en ELMS, je crois en WEC même. Donc, on voit vraiment que tout le monde se prépare. On sait qu'il y a des ingénieurs, des mécaniciens de Peugeot qui étaient déjà présents dans d'autres teams. Donc, on voit que toutes les équipes qui vont arriver en 2023 sont déjà en train de mettre des ingénieurs, des mécaniciens pour on va dire pour les former. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le WEC aujourd'hui, c'est malheureusement encore que 6 courses par année. On était monté jusqu'à 9 courses il y a quelques années de ça. On est descendu à 6 courses, donc là même 5 events, puisque on est 2 semaines d'affilée à Bahreïn. Donc il n'y a pas beaucoup d'opportunités de vraiment prendre le pli en course. Donc voilà, ces constructeurs qui vont arriver, ils sont déjà en train de se placer, de se positionner. On les voit, on voit bien. Certains ingénieurs de chez Audi, pas vraiment habillés en WRT dans l'équipe, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu et à nous de voilà de prendre conscience que c'est très difficile, ça va être difficile et qu'il faut être prêt.
On va parler justement des équipiers parce que vous avez, après avoir connu Fernando Alonso pendant votre période Toro Rosso en Formule 1, vous l'avez aussi côtoyé en tant que coéquipier au volant de la Toyota. Vous avez gagné 2 fois les 24 heures du Mans avec Fernando Alonso. On voit que c'est vraiment un phénomène. Alors évidemment, double champion du monde de Formule 1. Comment il est, Fernando Alonso, en tant que coéquipier? Comment vous avez réagi quand on vous a dit bah, il va être dans ta voiture? Comment ça s'est passé tout ça?
Bah, ça s'est passé très bien. On se connaissait, hein, bien entendu, mais pas aussi bien. Parce que c'est vrai qu'après, quand vous faites une année et demie, quasiment 2 ans ensemble, en tant que coéquipier, je peux vous dire que vous connaissez très très bien, surtout avec tous les essais d'endurance qu'on fait pour se préparer. Mais disons, voilà, j'ai découvert le personnage un peu plus en détail. Et c'est vrai que j'ai été agréablement surpris, j'ai été impressionné. Sur certaines capacités et manières de faire. Donc, quand il est arrivé, ça n'a pas forcément été super facile au début. Et il avait une attitude assez incroyable. On s'attendrait voilà, qu'il remette en cause, qu'il veuille tout changer. Et tant qu'il lui manquait quelques dixièmes, il se plaignait jamais. Il donnait jamais vraiment son avis. Et le jour où il a vraiment été au niveau, là, il a commencé à beaucoup plus s'impliquer. C'est vrai qu'après, à un moment donné, je me rappelle. Ce quadruple stint la nuit qu'il fait au Mans, c'était un peu le moment déclencheur, je dirais. À partir de ce moment-là, il était extrêmement rapide jusqu'à la fin. Il avait vraiment compris les spécificités de la voiture, qui était une voiture vraiment très, très différente de ce qu'il avait l'habitude. Et en même temps, ce n'était pas forcément facile pour lui, puisqu'il faisait en parallèle la fin de saison avec McLaren en F1. Plus il faisait ça, ce n'était vraiment pas facile. Mais il était assez impressionnant. Et la volonté, l'implication qu'il avait, quelqu'un qui avait déjà tout gagné, n'avait pas forcément besoin de ça, il était là vraiment que pour gagner. Et c'était assez impressionnant de voir son attitude face à ça. Donc voilà, j'ai beaucoup appris de lui aussi, même si je pense qu'il a pas mal appris de nous. Mais non, c'était un super bon moment et c'est vrai que c'était de très belles années.
Est-ce qu'il avait une demande spécifique par rapport à la voiture, façon de développer ses qualités, parce qu'en Formule 1, c'était Alonso Racing, hein, partout où il est passé. Et là, il a mis un petit peu de temps pour comprendre ce qui se passait. Est-ce qu'il a eu des requêtes particulières? Parce que ce qu'on a compris quand même, c'est qu'il s'est fondu dans un collectif, alors qu'avant, c'était quand même il était perçu comme un summum d'égoïsme. Ce qui est une qualité chez les pilotes, alors, de toute façon.
Alors, je pense que comme on dit qu'il est égoïste, mais il a compris que pour gagner, il fallait que les trois soient rapides. Il a compris que pour gagner, il fallait que l'équipe aille vite. Et je pense qu'il l'a compris bien avant n'importe qui d'autre. Et donc, quand il est arrivé, il a tout de suite, au bout de 3-4 mois qu'il roulait dans la voiture, il a tout de suite compris où sont ses points forts et où étaient ses points faibles. Et en fonction de ça, il a tout de suite, il a tout de suite poussé un maximum. Par exemple, il est extrêmement fort pour rouler quand on avait de la peine à mettre les pneus en température. Il mettait plus d'énergie dans les pneus. Donc, en fin de compte, à un moment donné, durant la nuit du Mans, il rattrape quasiment 2 minutes sur la voiture sœur. C'est ce qui est, dans le monde du sport auto, c'est colossal parce que ça représente 3/4 de tour quasiment. Et là, il les récupère parce que lui, il est capable de maintenir la température dans les pneus. La nuit où il faisait froid, ce n'était pas facile. Et là, il a fait une énorme différence. Et par la suite, on a chaque fois roulé dans des moments où on savait que, par exemple, moi, je faisais souvent le départ de la course. C'est souvent au milieu d'après-midi où il fait chaud. J'arrivais à emmener la voiture quand il faisait chaud, peut-être un peu mieux que lui. Et lui, par contre, l'emmenait mieux quand il faisait froid. On a tout de suite compris ça. Et depuis là, ça n'a même plus été une discussion. C'était clair, on va faire comme ci, on va faire comme ça, parce que ça va permettre au groupe, à la voiture, d'avoir le meilleur résultat au global. Et ça, c'est vrai qu'il a été, incroyable là-dessus. Il n'a jamais demandé à faire le départ parce qu'il savait que voilà, il y avait plein de procédures à faire, c'était une voiture compliquée, et que lui, voilà, il se concentrait sur où il était bon, et moi, je me concentrais là où j'étais bon. Et avec Kazuki en plus, c'était parfait, quoi.
Alors, il y a eu un double champion du monde de Formule 1 dans le même paquet que vous, dans la Toyota. Il va y avoir des essais pour un septuple champion du monde des rallyes, Sébastien Ogier, qui, après la dernière épreuve, là, dans quelques jours, va faire les rookie tests à bord de la Toyota. Vous avez travaillé un petit peu avec lui au simulateur, où il a travaillé dans son coin. Comment ça se passe, l'accueil d'un septuple champion du monde des rallyes chez Toyota?
Ben écoutez, nous, ça fait un moment qu'on entend qu'il aimerait faire de l'endurance, qu'il va diminuer son programme de rallye. Alors après, je le connais pas très bien, pour être honnête, donc je ne saurais pas vous dire. Bon, à l'époque de Toro Rosso, Sébastien Loeb était venu faire du simulateur chez Red Bull, et il était censé être mon coéquipier pour la dernière course d'Abu Dhabi. Ça ne s'était pas fait pour finir. Mais là, en l'occurrence, pour Seb Ogier, il a passé du temps dans le simulateur. Je sais qu'il a fait beaucoup de tours. Il a quand même une grosse expérience du circuit. Hein. Je sais qu'il avait fait des courses en DTM, en guest, une ou deux fois. Il a fait pas mal de Carrera Cup. Donc, il a vraiment une vraie connaissance du circuit. Après, là, c'est vrai qu'on arrive sur une toute nouvelle voiture, pas forcément facile à emmener. Donc, c'est un challenge. À mon avis, c'est vraiment un challenge. Et je me réjouis de voir comment il va s'adapter, qu'est-ce qu'il va apporter, comment il va réagir. C'est sûr que je ne pense pas que ça va être facile, mais je pense que c'est quelqu'un de très talentueux qui va, en tous les cas, travailler très dur pour y arriver.
Et la plus grosse partie du challenge, où se trouve-t-elle ?
Écoutez, je ne suis pas un spécialiste du rallye, donc c'est sûr que, je pense deviner que voilà, un pilote de rallye, il est capable de tout de suite être un très haut niveau parce qu'en général, il a l'habitude de passer qu'une seule fois au même endroit. Donc là, nous, c'est vrai qu'on va faire des centaines, voire des milliers de tours sur chaque circuit. Et c'est vrai qu'après la prochaine course ici à Bahreïn, on va encore rester pour faire 3 jours de test. Donc, à mon avis, on connaît très bien la piste au bout des 3 jours. Mais là, on est vraiment dans l'optimisation extrême de la trajectoire, de la manière de passer. Et je pense qu'en rallye, on est plus dans... On essaie d'être le plus proche possible de 100%, mais 100%, je ne pense pas qu'on puisse y être. En passant une seule fois au même endroit, ce n'est pas facile d'être à 100%. Donc, je pense qu'ils ont une très, très grosse capacité à être très proche de la limite. Par contre, après, en passant plusieurs fois, être capable de tout le temps améliorer, d'aller chercher, on va dire, le dernier centième, le dernier dixième dans chaque virage, ça, je ne me rends pas compte. Donc, je me réjouis honnêtement de voir hein, le niveau et on va essayer de l'aider au maximum hein, pour qu'il puisse progresser et apprendre un maximum de tout ça.
Ça serait une grosse responsabilité de le mettre tout de suite en titulaire l'an prochain où il faudrait qu'il passe par une catégorie inférieure. Il y est prêt d'ailleurs, il l'a dit, pour se faire un petit peu ses repères, ses armes, pour ensuite essayer de viser 2023.
J'ai aucune idée de ce qui est prévu. Objectivement, je n'ai aucune idée. Donc, je ne pourrais pas vous répondre. Après, je pense qu'on verra un petit peu comment... Je pense que même lui, hein, il a besoin de voir comment ce test se passe, comment il se sent dans la voiture. Il y a plein de choses. À mon avis, on ne peut pas prendre une décision comme ça. Après, je ne sais pas quelles sont ses intentions, quelles sont ses envies, quelles sont les envies de Toyota. J'en ai vraiment aucune idée. Mais je pense objectivement que ce n'est pas facile d'être vraiment tout de suite au niveau. Je pense que ça devrait être difficile. Honnêtement, si il est tout de suite au niveau, je pense que nous, il faut qu'on change de job, hein, objectivement. Mais on verra. Hein. On ne sait jamais.
On va parler de formule AE si tu veux bien Sébastien, un coup je te dis vous, un coup je vous dis tu, parce que ça va commencer en Arabie Saoudite à la fin du mois de janvier, donc c'est en gros dans 2 mois. J'imagine que ça turbine déjà du côté de chez Idams, va pas trop y avoir le temps, il y a le temps de prendre des vacances là pour Sébastien Buemi à la fin de la saison WEC ou on enchaîne direct?
Bah écoutez, on enchaîne quand même pas mal. Hein. C'est sûr que là, c'est une grosse partie, on va dire, WEC et un peu moins Formula I, parce que c'est vrai que avec ce qui s'est passé du Covid, le report de la GN3, donc de la troisième génération de Formula I, on a le règlement qui est resté figé pour une année de plus. On a dû homologuer notre powertrain pour 2 ans. On n'avait plus d'essais. Donc c'est vrai que depuis, on va dire, le mois d'août à Berlin, On a une très grande pause. On aura maintenant des essais officiels à Valencia fin novembre. Et il faudra voir un petit peu comment ça se passe déjà là. Maintenant, nous, on travaille fort hein, pour essayer de redresser la barre. On a pas mal souffert en saison 7. Hein. C'était une année très décevante pour nous. Donc, on a essayé de se remettre un maximum en question, essayer d'arriver avec des solutions pour la saison 8, même si, comme je l'ai dit, voilà, une partie du powertrain est quand même figée pour toute la saison, donc ce n'est pas forcément facile de tout révolutionner. Bon, on travaillera le plus dur possible, on va essayer de faire une belle saison. Puis après, bien entendu, le switch sur la GN3, qui sera une voiture totalement différente, avec un règlement différent, avec même un règlement sportif potentiellement très différent, avec des pit stops à nouveau, on ne sait pas. Donc, il va falloir trouver le juste milieu entre travailler un maximum sur saison 8 et en même temps en parallèle pour saison 9.
J'ai fait une émission avec Jean-Yves Vergne. Oui, tu me disais, Gilles ?
Non, vas-y, Stéphane.
C'est bon. On a eu dernièrement un invité, Jean-Yves Vergne, qui nous a dit que la Formule E était extrêmement compétitive, concurrentielle, que le travail même de préparation était encore plus méticuleux. Qu'en Formule E, il y a une somme des détails hallucinante à travailler parce que les écarts sont extrêmement faibles. Et je regarde, 11 pilotes différents en pole position l'année dernière, 12 qui ont gagné des courses. Pour les équipes, c'est pareil. Sur les 12 équipes, il y en a 9 qui ont signé une pole et 7 qui ont gagné. Ça veut dire que c'est la bataille en permanence. On a vraiment l'impression, dans cette première année de championnat du monde, on a franchi un palier supplémentaire là.
Oui, alors écoutez, je trouve qu'il y a des choses super, des choses un peu moins bien. C'est vrai que maintenant, les qualifications vont être un petit peu repensées, elles vont être changées, parce que c'est vrai que je pense que le fait que le championnat est très imprévisible est une très bonne chose. Mais là, pour moi, c'était presque trop, si vous voulez. Déjà, les voitures sont très similaires. Et en plus, vous avez ces groupes en qualification avec des circuits qui s'améliorent énormément, puisque ce sont des circuits en ville. Donc, automatiquement, plus vous roulez, plus ça va vite. Donc, si vous partez dans le premier groupe de qualification, et ça, c'est à chaque fois le top 5 du championnat qui va partir dans le premier groupe. Et ensuite, il y a 4 groupes jusqu'au dernier du championnat qui partiront dans le dernier groupe. Vous vous retrouvez, si vous voulez, à chaque fois à tout rechanger, à avoir un énormément de chamboulements dans le classement. Et par conséquent, vous créez un championnat très imprévisible qui, selon moi, est bien, puisque vous ne savez jamais qui va gagner. Au bout d'un moment, on a quand même envie de voir qui est le meilleur et que ce ne soit pas forcément à chaque fois celui qui a eu la chance d'être dans tel et tel groupe. Parce que c'est vrai que je me souviens de Puebla, vous avez Venturi avec Mortara qui gagne la course et le week-end d'après, ils sont derniers, quoi. Ça passe de premier à dernier. Et ça, je trouve presque un petit peu extrême objectivement. Donc là, ils ont essayé de redresser la barre avec ce nouveau format de qualification quelque peu, on va dire, novateur. Donc on verra ce que ça donne. Mais c'est sûr que c'est très, très, très difficile. Et surtout en course, vous avez une grosse incentive à travailler normalement sur l'efficacité. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément travailler sur le châssis, de vouloir passer en virage légèrement plus vite. Oui, c'est toujours important, mais c'est vraiment l'économie et le management de l'énergie qui est crucial en course. Et par conséquent, tous les petits détails font la différence. Là, en F1, vous consommez 2 litres d'essence en plus ou 2 litres en moins, ça ne changera pas le prix du beurre à la fin. Mais là, ça peut tout changer.
Alors, on le rappelle, sur cette formule de qualification, l'an prochain, ça va être très novateur, très intéressant. 2 groupes de 11 pilotes en qualif. Les 4 meilleurs seront retenus pour des duels, quart de finale, demi-finale, finale. Ça va être une dramatique un petit peu différente, très différente, et qui pourra peut-être d'ailleurs inspirer d'autres disciplines. Alors, pourquoi pas, peut-être la Formule 1 qui se cherche aussi là-dessus. Alors, vous avez dit aussi que là, la saison 7 n'avait pas été fantastique pour Dams, c'est vrai. On se posait la question avec Gilles, les raisons de tout ça. Alors, il y a eu malheureusement la disparition de Jean-Paul Driot, qui était vraiment le pilier absolu de cette équipe, l'âme de cette équipe. Alors, l'équipe a été reprise par ses fils, mais vous avez dit au tout début qu'il vous avait beaucoup apporté. Alors, oui, Jean-Paul Driot, on garde l'image de quelqu'un qui était extrêmement passionné, qui aimait la vraie course, quoi, sans les petits arrangements. C'était vraiment la course à la loyale. Et il avait un bel esprit.
Ah, c'est sûr que moi, j'ai appris à connaître Jean-Paul, on va dire, personnellement, à travers toutes les saisons que j'ai faites pour Idams. Et c'est vrai que c'était un choc pour toute l'équipe de perdre Jean-Paul. Après, Olivier et Grégory ont repris l'équipe. Et c'est vrai qu'en saison 6, on a très bien fait, puisqu'on termine deuxième au classement en étant Nissan Idams, avec objectivement pas tout à fait les mêmes moyens que certaines autres équipes. Donc là, c'était assez incroyable ce qu'on avait réussi à faire. Malheureusement, l'année passée, on a souffert pas mal. Mais là, on a quand même cette âme chez Dams de vouloir absolument redresser la barre, de ne pas simplement accepter de se retrouver derrière. Et ça travaille très, très dur. Et je trouve que ces deux fils, en tout cas, on font le maximum pour qu'on puisse revenir là où on était en saison 6, se rebattre pour les victoires et les pole positions. Maintenant, je peux vous dire, ce n'est pas facile. Hein, quand vous avez Audi, Porsche, Mercedes, Jaguar, BMW qui arrive avec des énormes budgets, on va dire des infrastructures assez extraordinaires, c'est pas forcément facile, mais c'est pas non plus une excuse. Et nous, on travaille très très dur maintenant pour remonter la barre. Donc Jean-Paul, c'est sûr, il était passionné. On a eu des moments assez incroyables. Hein, je me rappelais pas forcément toujours top. Hein, on s'est pris la tête, mais c'était toujours très franc, très correct, très juste. Donc, à la fin, ça a toujours fait avancer l'équipe dans la bonne direction et on essaie de continuer dans cette direction pour la suite, quoi.
On va parler Formule 1 maintenant, Sébastien, si vous le voulez bien, parce qu'on a quand même, en cette année 2021, une partie finale de championnat qui est assez exceptionnelle. Hein. Il reste 5 Grands Prix à négocier, 12 points d'écart entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Il y en a 133 possibles à marquer des points, donc ça laisse encore imaginer beaucoup de choses. J'aimerais bien voir avec vous le rôle que vous tenez, vous, parce que donc, vous êtes pilote d'essai et de réserve chez Red Bull. On a du mal à faire comprendre aux gens, et parfois même à comprendre nous-mêmes. On l'a évoqué notamment pour Austin, hein, où on a vu vraiment les premiers essais libres très favorables à Mercedes et puis ensuite Red Bull capable d'inverser la tendance. On a du mal à bien comprendre comment ça se passe en coulisses. Et vous faites partie de la cellule qui travaille justement en simulateur après les séances d'essais libres pour finalement engranger tout ce qui a été amassé comme data sur la piste. En gros, vous travaillez la nuit après les pilotes de Formule 1 pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe et comment faire progresser. Vous nous expliquez un peu le processus?
Ouais, alors, c'est pas très facile à expliquer, mais disons, bon, ben,
C'est pour ça que je vous laisse faire.
on peut plus faire d'essais. Hein. Comme vous le savez, il y a de plus en plus de courses, moins en moins d'essais. Donc, automatiquement, les équipes ont investi énormément dans les simulateurs, dans tous les programmes de simulation. Et c'est vrai que Red Bull a été assez précurseur depuis leur arrivée en F1 dans le simulateur. On a vraiment toujours été, on va dire, le plus possible à la pointe de la technologie de ce côté-là. Alors après, bon, Austin, c'était assez un circuit assez spécial parce qu'il était très bosselé. On avait déjà entendu la MotoGP qui s'était plaint. Nous, on savait que c'était bosselé par le passé, mais voilà, là, ça faisait 2 ans qu'on n'y était pas allé à cause du Covid. Et c'est vrai que la piste est assez endommagée encore un peu plus. Donc, si vous voulez, le boulot du pilote de réserve ou de simulateur, c'est que, comme vous l'avez expliqué, vous avez donc les essais libres. D'abord, on fait ce qu'on appelle le pré-event. Donc, le pré-event, c'est on met toutes les données dans le simulateur qu'on estime qu'on va découvrir à Austin. Une fois qu'on arrive à Austin, après la première séance d'essais libres, il y a un gros travail qui est fait pour améliorer ce qu'on appelle le scan de la piste, c'est-à-dire toutes les bosses qui ont évolué d'une année à l'autre. Comme vous avez des capteurs sur toutes les suspensions, vous savez exactement les bosses, où elles sont, de quelle force et tout ça. Après, vous pouvez mettre le vent, vous pouvez mettre la pression atmosphérique, la température, quel pneu vous utilisez. Bon, bref, vous mettez toutes ces données dans le simulateur qui vous permet, quand ça fonctionne bien, de recréer, on va dire, le même comportement dans le simulateur que vous avez sur la piste. Et quand, en l'occurrence, vous avez le comportement de la voiture qui est loin d'être optimal le vendredi et que vous êtes capable de le, 1 heure et demie, 2 heures après les essais libres, avoir le même comportement dans le simulateur, vous pouvez ensuite travailler toute la nuit à des solutions qui potentiellement pourront améliorer la voiture le lendemain. Donc, ce qui s'est passé dans ce cas-là, c'est que bon, on était derrière. Après, on n'était pas aussi loin que ce que les essais libres 1 ou 2 nous ont laissé paraître, parce qu'après, bon, il y a quand même des modes de puissance moteur, à quel moment vous mettez les pneus, si vous êtes gêné dans votre tour ou pas. Donc, bref, on avait l'impression d'être vraiment très lent, mais ce n'était pas forcément le cas. Et toute la nuit, bon, pas bah, toute la nuit, jusqu'à 3-4 heures du matin, on a travaillé parce que, bon, avec le décalage horaire, malheureusement, c'était pas très favorable sur ce coup-là. Donc, bon, je crois jusqu'à 4 heures du matin, on a travaillé. On est arrivé avec des solutions qui nous paraissaient vraiment mieux. Ces solutions étaient mises sur la voiture dès la FP3. On a tout de suite vu une amélioration de performance. Voilà. Donc, en l'occurrence, là, toute la simulation, tout ce qui était investi pour aider le simulateur a vraiment porté ses fruits, puisqu'on ne pouvait plus rouler après la FP2. Nous, on a continué dans le simu, et le lendemain matin, quand on a mis le setup sur la voiture, ben, la voiture était plus compétitive. Donc, ça, c'est des fois où ça marche très bien. Et des fois où ça marche un peu moins bien, mais là, en l'occurrence, ça a vraiment été bien.
Qu'est-ce qu'il avait en l'occurrence comme demande, Max Verstappen, à
Bah, si,
Austin?
si.
Parce qu'on l'a vu grogner quand même le vendredi, et le vendredi soir après l'essai, on s'est dit quand même, l'équipe technique a du boulot et le pilote du simulateur spécialement.
Ouais, alors si vous voulez, la limitation, bon, déjà, c'était de faire une voiture qui permette déjà de faire toute la course sans se casser. C'était déjà assez. Donc, déjà là, il fallait faire des compromis sur le setup. Parce que il y avait tellement de bosses que, je veux dire, dans la bataille Verstappen, Hamilton, Red Bull, Mercedes, celui qui fera un DNF, il va le payer très cher. Plus on se rapproche de la fin, plus le DNF est interdit. Donc là, il faut
La bombe.
absolument trouver une voiture quitte à ce qu'elle soit potentiellement légèrement moins compétitive, mais il faut qu'elle puisse aller au bout de la course. Déjà, ça, c'était la première chose. Donc ça nous a malheureusement poussé à un petit peu faire des compromis sur le setup. Et puis ensuite, ben, on avait un gros problème sur le train arrière qui se dérobait, qui n'avait pas beaucoup de traction, qui avait beaucoup de dégradation. Donc automatiquement, c'est facile à dire oui, bon, ben, il faut améliorer l'arrière, oui, mais bon, en général, si vous voulez, c'est toujours un compromis. Vous améliorez l'arrière, mais l'avant devient moins bien. Puis après, il faut savoir où mettre le curseur pour avoir le meilleur compromis possible et pas simplement, ah, on améliore l'arrière, mais si c'est pour aller, comprenez, si c'est pour gagner 3 dixièmes d'un côté, on perd 4 d'un autre, ça ne sert à rien. Donc, il faut trouver le bon compromis. Et ça, ce n'est pas forcément facile parce que, comme vous pouvez l'imaginer, on ne choisit pas le setup comme ça, puis on le met sur la voiture et puis on garde. C'est quand même, ça fait des années qu'on va à Austin. Ça fait... Donc, quand on amène quelque chose, c'est déjà extrêmement optimisé. Avant même que la voiture elle roule, on a déjà optimisé aux petits oignons tout ce qu'on peut. Et là, il faut encore faire un autre step parce que ça ne suffisait pas. Donc, en l'occurrence, on a trouvé quelque chose qui a l'air d'avoir vraiment, vraiment bien fonctionné. Et c'est vrai que ça nous a permis de faire un gros step en avant en termes de performance.
On voit là sur la fin de saison, il reste 5 grands prix et Alors, on voit, il y a des calculs. Là, apparemment, les deux prochains Grands Prix sont censés être plutôt favorables à Red Bull, le Mexique et le Brésil. Et puis ensuite, la tournée au Moyen-Orient est réputée pour être plus favorable au Mercedes. Et puis, on voit qu'en même temps, Christian Horner et puis et Toto Wolff disent, oui, bah, ça, c'est en principe, mais on voit que sur les derniers Grands Prix, on est régulièrement pris à défaut. En interne, on arrive quand même à voir là où on va avoir l'avantage. Là, on pense qu'au Mexique, ça sera quand même plus favorable à la Red Bull.
Bah, si vous voulez, alors nous, on n'est pas, on ne sait pas exactement ce que Mercedes fait, quelles sont leurs spécifications techniques, mais on sait que, par exemple, au niveau du moteur, pour différentes raisons, de turbo, de taille, de à quelle vitesse il tourne, de toutes ces choses-là, nous, on sait que techniquement, normalement, on a un avantage par rapport à eux au Mexique, en altitude. Voilà. Après, ça veut dire que quand on n'est pas en altitude, on a potentiellement peut-être un petit désavantage. Maintenant, chaque constructeur a développé au mieux de ce qu'il est capable de faire. Puis après, vous avez des petites tendances, vous avez des choix qui sont faits, qui vont potentiellement vous apporter un petit peu de performance d'un côté, mais vous en enlevez de l'autre côté. Et en général, on a une tendance à être, en comparaison à Mercedes, un peu plus compétitif en altitude. C'est-à-dire l'Autriche, le Mexique, le Brésil, potentiellement le Nürburgring si on y va. Là, on est quand même en général plus compétitif. Après, quand vous avez une saison aussi serrée qu'on a eue cette année, si vous voulez, des fois, 2 dixièmes, on a l'impression d'être complètement out ou d'être des phénomènes. Donc, automatiquement, 2 dixièmes, ça peut vite évoluer parce que même si on est déjà tous tournés vers 2022, le nouveau règlement, la nouvelle voiture, je passe énormément de temps dans le simulateur pour travailler sur la voiture de l'année prochaine, on est à fond pour essayer de finir la saison et de gagner le titre. Vous n'êtes pas souvent dans cette situation où vous pouvez vous battre pour le titre jusqu'à la fin. C'est rare. Donc, quand vous êtes dans cette situation-là, il ne faut quand même pas lâcher. Donc là, voilà, on est à fond là-dedans. Et c'est vrai que sur le papier, on devrait être quand même un peu plus compétitif au Mexique, au Brésil. Mais après, il faudra finir. Et on sait que le Mexique et le Brésil, c'est très difficile pour la mécanique. Donc là, on sait qu'il faut terminer. Après, on sait aussi, on a vu que Mercedes a peut-être un peu plus de problèmes de fiabilité cette année avec le moteur qu'ils ont eu par le passé. Nous, on touche du bois, mais peut-être un peu moins. Donc bon, il faudra voir comment les choses évoluent.
Ça va se jouer. Il y a une déperdition de combien en pourcentage de puissance en altitude, puisque le turbo quand même corrige ça. Et d'où viendrait le petit avantage du Honda par rapport au Mercedes?
Alors, écoutez, je ne suis pas un ingénieur, mais si vous voulez, quand vous montez en altitude, la pression atmosphérique n'est plus la même. Donc, vous pouvez compenser pas mal avec le turbo, mais il y a certaines architectures de turbo qui vous permettent de plus compenser ou de moins compenser. Alors, vous en avez qui ont peut-être plus de rendement quand tout est nickel, mais vous ne pouvez pas forcément compenser l'altitude, l'effet de l'altitude aussi bien. Puis d'autres qui ont peut-être un peu moins de rendement, mais vous pouvez mieux compenser. Donc ça, de ma compréhension, et de nouveau, je ne suis pas un ingénieur, c'est là un petit peu le petit truc, c'est peut-être nous, on est capable de plus compenser. Mais non, je ne suis pas de nouveau un ingénieur exactement dans le détail. Et c'est vrai que, si vous voulez, nous, en tant que pilote, vous ne le ressentez pas vraiment. Vous roulez, les ingénieurs vous mettent le setting optimal et puis en soi, voilà quoi. À la fin, ça se joue à pas grand chose quoi.
Est-ce que on rappelle que Mexico, pardon Stéphane, Mexico, c'est à 2200 mètres d'altitude hein, le circuit, donc une voiture, on va dire normale, comme
atmosphérique, elle a plus de puissance. Ouais.
Voilà, c'est ça. Je crois que c'est 25% de perte hein, de puissance. C'est
quoi, ça. Et vous avez aussi une perte d'aéro. Comme l'air est moins dense, vous avez beaucoup moins d'aéro. Donc après, le grip mécanique, il est un peu plus important. C'est-à-dire, sur les trois quarts des circuits, c'est que l'aérodynamique qui fait vraiment la performance. Là, ça sera un peu moins, c'est un peu plus le grip mécanique. Après, vous avez aussi des problèmes de chauffe. Hein. Comme l'air est moins dense, ça chauffe plus. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et tout d'un coup, si vous devez mettre des écopes de frein un peu plus grandes ou vous pouvez perdre un peu d'aéro, ça dépend quelle voiture elle est plus affectée qu'une autre. Il y a une multitude de paramètres qui évoluent un petit peu. Puis, comme on n'a pas l'habitude de rouler à cette altitude-là, quand on y arrive, d'un coup, ça peut créer des écarts un peu plus grands que ce qu'on a l'habitude de voir.
Là, on parlait juste du simulateur. L'importance extrême hein, dont qu'on ne réalise pas bien quand même, mais preuve en est, c'est que Lewis Hamilton est retourné au simulateur chez Mercedes cette année pour essayer de gratter encore des fractions de seconde et comprendre un petit peu ce qu'il pouvait en retirer. Est-ce que Max aussi fait des tests pour corréler tout simplement aussi vos sessions?
Ah, il n'arrête pas, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que bon, ils ont 20, 22 courses cette année, mais souvent le lundi après la course, c'est-à-dire là par exemple en Turquie, si je ne me trompe pas, le lundi matin, il était dans le simulateur pour de la corrélation. On a eu une mauvaise corrélation en Turquie, c'est-à-dire on n'arrivait pas à recréer le comportement de la voiture aussi bien qu'on a de l'habitude d'être capable de recréer, parce que d'habitude, il vient et dit non, mais c'est très bien. Là, en l'occurrence, ce n'était pas bien. Donc, on sait que la Turquie, il y avait un asphalte vraiment très différent. Il y a 2 ans de ça, je veux dire, l'année passée, il n'y avait pas du tout d'adhérence. On était à 10-15 secondes des chronos. Cette année, c'était les records de piste parce qu'ils l'ont travaillé. Je ne sais pas exactement ce qu'ils lui ont fait à cet asphalte. Donc, automatiquement, là, on était sur un niveau de corrélation qui n'était pas bon. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le simulateur, c'est bien pour autant qu'il est bien corrélé. Parce que si votre simulateur n'est pas bien corrélé et qu'il vous. Il vous il, Voilà, il vous fait faire des choses qui ne font pas de sens, ça sert à rien, c'est presque destructeur, on va dire. Donc,
Ça
nous,
peut
on
être
a
contre-productif.
énormément, voilà, c'est contre-productif. Et nous, on a énormément d'ingénieurs qui travaillent simplement sur de la corrélation. On compte constamment, on améliore la piste. Ils ont rajouté une petite bordure entre le vendredi et le samedi à Austin. Le samedi matin, boum, c'était dans le simulateur direct. C'est tous des petits détails qui continuent d'être optimisés parce qu'aujourd'hui, Hamilton, il est retourné dans le simulateur parce que. Un dixième ou deux, ça fait la différence. Je veux dire, à l'époque de 2014-2015, où Mercedes fait la pole à quasiment une seconde d'avance, OK, vous allez 2 dixièmes plus vite, moins vite, bon, c'est peut-être mieux par rapport à votre coéquipier, mais il n'y a pas vraiment de course. Là, maintenant, c'est tout, chaque détail peut vous faire gagner ou perdre la prochaine course.
Alors justement, là on rentre vraiment dans le money time. C'est un exercice auquel Lewis Hamilton est habitué. Ce n'est pas le cas de Max Verstappen, vous qui avez été chercher des titres, qui en avez gagné, qui en avez laissé échapper aussi, il faut le dire. C'est un exercice qui est particulier. Il est prêt, Max, pour ça?
Écoutez, je vous dirais oui, c'est sûr que c'est particulier. Et oui, vous battez pour le titre de champion du monde en Formule 1, ça doit être quelque chose d'un petit peu perturbant. Après, bon, moi, je ne suis pas tout à fait de la même génération que Max, mais là, je le côtoie un petit peu, j'ai vu ce qu'il est capable. Lui, il fait pas partie de la norme, en fait. Non, mais c'est vrai, faut dire ce qu'il est, il fait pas partie de la norme. Donc, il n'y a rien, je sais pas comment vous dire ça. Lui, des fois, je me dis que c'est peut-être un extraterrestre par moment. Donc, il faut pas, je sais pas comment vous dire ça. Je peux pas vous dire honnêtement. J'ai l'impression que oui, il est prêt. C'est sûr qu'il est prêt. Je me fais pas de soucis pour lui honnêtement. S'il a l'opportunité, c'est pas le genre de gars qui va faire l'erreur à la fin, quoi. Il a ce détachement vis-à-vis du résultat, mais en même temps ce commitment qui est assez incroyable. C'est vous ne ressentez pas que qu'il est sous pression. Vous ne ressentez pas qu'il est en train de prendre conscience à quel point il est à un moment fatidique de sa carrière, même de pouvoir devenir champion du monde pour la première fois. Il ne laisse rien paraître et même il est vraiment cool, il est prêt, quoi. Moi, je pense qu'il est prêt et honnêtement, il mérite parce que si vous regardez sur la saison, ok, l'accident avec Hamilton à Silverstone, mais vous regardez ce qui s'est passé à Budapest quand il s'est complètement. Détruire la voiture et potentiellement il devrait pouvoir gagner la course. Je ne sais plus combien de points il perd, mais pas loin de 50 points qui perd pas de sa faute, hein, on va dire. Honnêtement, pour moi, pour le moment, il mérite plus, quoi.
Quelle est sa qualité la plus bluffante qui pourrait faire la différence dans cette dernière ligne droite?
Je dirais, il a déjà la vitesse, hein. La vitesse en général qu'il a, il est incroyable. Si vous regardez la course qu'il fait à Austin, comme il ne fait pas d'erreur à la fin, il maintient, il n'a plus de pneus, mais il continue d'aller chercher. Et même avec Schumacher dans le dernier tour, où Schumacher reste devant, 3-4 virages de trop. Heureusement, il prend quand même le DRS sur l'avant-dernière ligne droite. Voilà, il craque pas, quoi. Il craque pas et il est capable. D'aller chercher des pôles improbables, il fait la différence, quoi. Il fait vraiment la différence, même si ce qui est super bien maintenant, c'est que Pérez arrive à trouver un réglage de voiture qui permet de le mettre en confiance et lui aussi, on va dire, se battre vraiment devant. Mais lui, il est tout le temps là. Il est tout le temps là, il ne fait pas d'erreur et il n'y a pas une séance où il n'est pas compétitif, quoi.
On va parler de l'avenir, parce que vous nous disiez tout à l'heure que vous avez beaucoup roulé dans le simulateur de la version 2022 de la Formule 1. On sait qu'il va y avoir un grand chambardement, hein, sur les Formule 1 à la fin de la saison et pour l'année 2022. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Vous êtes peut-être un des mieux placés pour nous dire comment ça va être la Formule 1 en 2022.
Écoutez, ça sera un peu différent, hein. Les voitures vont un peu plus se ressembler. Hein. Alors bon, moi, je n'ai pas vu la Red Bull. Hein. Je la teste dans le simulateur, mais je ne la vois pas en vrai. Je ne sais pas vraiment à quoi elle va ressembler, honnêtement. J'ai déjà fait beaucoup de kilomètres, des milliers de kilomètres, mais je ne sais pas exactement à quoi elle va ressembler, même si, comme j'ai compris, ça sera assez similaire à ce qu'on a pu voir à Silverstone avec la voiture de 2022, là, de la FOM. Des roues plus grosses, hein, ça c'est sûr, hein, plus grandes, hein, on va dire en diamètre, des 18 pouces, ça c'est vraiment le gros truc, une philosophie d'appui aérodynamique complètement différente. Donc là, c'est un appui aérodynamique qui va venir du fond plat, donc beaucoup plus ce qu'on appelle d'effet de sol et moins des ailerons. Donc l'idée là derrière est vraiment d'améliorer le racing, donc c'est-à-dire les voitures devraient être capable de mieux suivre parce que la voiture qui sera derrière perdra moins d'appui aérodynamique puisque une grosse partie de cet appui viendra du fond plat et pas des ailerons. Donc ça devrait être mieux. Bon, une voiture plus lourde, hein, 40 kg si je ne me trompe pas, c'est déjà des grosses voitures. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu le downside. Hein. Je trouve que les voitures sont trop grosses, trop lourdes. Mais bon, ça, c'est un petit peu la direction malgré tout que toutes les catégories adoptent depuis quelques années. Et voilà, l'arrivée des 18 pouces. Donc il faudra voir si il y a un vrai chamboulement au niveau de la hiérarchie. Ça pourrait être le cas, hein, honnêtement, parce que ce n'est pas du tout une évolution comme il y a eu ces dernières années où l'aileron avant a un petit peu évolué. Là, on est vraiment dans une révolution. Donc, toutes les philosophies de low rake, high rake, tout ça d'auteur de caisse à l'arrière, vous avez la Red Bull avec l'arrière très élevé, la Mercedes beaucoup plus à plat, il y a plein de... on va dire, de tricks, de suspensions que vous pouvez avoir. Là, on a beaucoup parlé des suspensions de la Mercedes, que la voiture s'affaisse sur la ligne droite, tout ça. Ça va être complètement différent. Donc, il faudra voir si Mercedes, Red Bull sont toujours aux avant-postes. Quoi. Ça risque d'être différent.
Et au plan sportif, on a quand même le sentiment que la Formule 1 se cherche. On a expérimenté les courses sprint. Il y en aura beaucoup plus l'an prochain, 6, je crois. Potentiellement encore avec des grilles inversées. Est-ce que tout ça, c'est bon pour le spectacle? Est-ce que c'est ce qui convient à la Formule 1 ou est-ce qu'il y a d'autres chemins de réflexion, d'autres bonnes idées qu'on pourrait puiser dans le championnat du monde d'endurance, dans la Formule E, qui dynamiserait le show en Formule 1?
Écoutez, moi, je trouve que cette année, elle est assez incroyable, honnêtement. C'est rare qu'on ait une course qui n'est pas intéressante. Quand on voit les 400 000 spectateurs qui sont venus à Austin, on voit que le programme Netflix, je pense, a vraiment bien aidé pour la popularité aux États-Unis, ce qui est assez incroyable. On voit que le championnat, il est très, très disputé. Alors, vous avez plusieurs batailles. Hein. Vous avez la bataille Red Bull-Mercedes, vous avez la McLaren-Ferrari. Puis après, vous avez vraiment le mid-pack avec Alpine, AlphaTauri, Aston Martin. Mais je trouve que la saison, elle est super intéressante. Et d'un côté, je me dis pourquoi je fais un changement de règlement maintenant, parce qu'on a chaque fois un petit peu le feeling que plus le règlement est stable pendant beaucoup d'années, plus tout le monde réussit à arriver un peu au même niveau. Le moteur, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de différence entre le Renault, le Mercedes, le Ferrari et le Honda. Pourquoi changer quand c'est une des plus belles saisons de la F1? La popularité, vraiment, elle augmente. Alors après, les sprint race, oui ou non? Moi, ce qui me dérange un petit peu avec cette sprint race, c'est que pour moi, la pole position devrait toujours être attribuée à celui qui fait le meilleur temps et pas celui qui gagne une course. Quoi. Ça, c'est le seul hic, je trouve, là-dedans. Après la sprint race, honnêtement, pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas, mais je trouve dommage qu'on donne des points pour la qualification. Je trouve ça presque normal parce qu'honnêtement, c'est vraiment un truc difficile à faire et ça devrait être célébré. Maintenant, donner des points et attribuer la pole position à celui qui gagne la sprint race, je trouve ça un petit peu faux. Mais bon, voilà. Je trouve que les sprint race, essayez d'en faire encore un peu plus pour voir pourquoi pas. C'est sûr que celle de Silverstone était exceptionnelle, mais après, c'était devenu un peu moins bien à Monza. Mais là, on en aura une, je crois, au Brésil. Difficile à juger. Mais pour moi, je trouve que la F1 est en train de regagner énormément en popularité. Et je pense que ça, c'est bien pour tout le sport automobile, pas simplement la F1. Ce n'est pas parce que la F1 va bien que c'est forcément mal pour les autres. Je pense que quand la F1 va bien, c'est bon pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment top. Après, qu'est-ce que la F1 peut vraiment faire de différent? Je me dis peut-être un petit peu la qualification. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en F1, vous faites partir le plus rapide, vous le faites partir devant. Donc déjà, si vous êtes plus rapide, et en plus, on vous fait partir devant, bon, ben, c'est sûr que c'est un peu différent. La Formule E, le plus rapide en général, on le fait partir derrière. Parce que comme il n'a pas pu faire son temps après la qualification, il va devoir partir derrière, donc il doit dépasser. Je ne sais pas. Hein, à la fin,
on va trouver un juste milieu.
Ouais, il faut trouver un juste milieu et il faut quand même que ça reste un sport. Donc le meilleur doit quand même, au bout d'un moment, récolter le fruit d'être meilleur. Voilà, un avantage. Donc voilà, peut-être un petit peu imaginer une sorte de qualification un peu plus proche de ce qu'on a en Formule I, pourquoi pas. Je trouve que ça pourrait être intéressant. Essayer des choses, ça ne me dérange pas, honnêtement. Révolutionner tout le temps, je trouve ça pas forcément bien, mais essayer de temps en temps des choses, pourquoi pas. Donc on va voir un petit peu comment ça évolue maintenant avec cette sprint race.
Eh ben, c'était formidable. Je crois qu'on a fait le tour, Stéphane. Tu as une autre dernière question.
Plus que
le tour. De toute façon, si on ne l'arrête pas,
ouais, il va mais tu connais mon cheval de bataille, mon dada. Non, j'allais demander à Sébastien si, de temps en temps, en tant que pilote, il ne sent pas qu'il y a un petit peu trop de coaching, on lui demande trop de faire des choses. Et moi, j'aimerais que les pilotes soient un petit peu plus libres. Et parfois, il y a un pilote qui tenterait une option sans la radio, sans les communications radio qu'il pourrait développer et battre tout le monde sur une stratégie vraiment décalée. Puisque s'il a une bonne idée, bah, ça va dire la radio et que les autres équipes s'alignent sur son choix. C'est peut-être ça un petit peu que je changerais moi en Formule 1, c'est-à-dire la radio, vraiment des grosses restrictions.
Ouais, alors écoutez, la radio, il ne faut pas oublier un truc, c'est que la radio que vous entendez, il y a un gros délai. Hein. C'est pas forcément. En général, ils vous remontent ça en replay. Il y a quand même un délai. Hein. Ce n'est pas instantané comme on a en Formule I. En Formule I, c'est instantané. Donc, on a plein d'ingénieurs qui écoutent les radios des pilotes juste devant, juste derrière. C'est important pour l'attaque mode, pour toutes ces choses-là. Après, pourquoi pas, hein. Ça fait aussi un peu partie du sport, je trouve, mais ça pourrait être une chose à discuter, c'est vrai.
Parce que je sais que vous êtes fan de vélo aussi, il me semble. En vélo aussi, on se dit que s'il n'y avait pas les oreillettes de temps en temps, ça pourrait donner des choix un petit peu plus intéressants, voilà. Originaux.
Ouais, c'est vrai qu'on veut augmenter, on veut au niveau technique améliorer, toujours faire mieux, mais d'un autre côté, des fois, il faut peut-être revenir un petit peu en arrière. Après, il faut essayer de savoir ce qu'on veut. C'est vrai que la F1, maintenant, on voit qu'elle se développe quand même plus pour un show que pour forcément un vrai intérêt technique. Alors, il faut trouver le juste milieu entre l'intérêt technique pour les constructeurs, l'avancée technologique, et d'un autre côté, garder l'esprit chaud, parce que c'est ça aussi, on a besoin des fans. Si les fans ne trouvent pas intéressant la F1, tout s'arrêtera. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu. Et je pense que la F1, là, elle est vraiment pas mal, honnêtement, parce que ça reste impressionnant, c'est rapide, c'est beau. Il y a de la bataille cette année, c'est incroyable. Et je trouve que Austin, les 400 000 spectateurs à Austin, ça prouve à quel point la F1 est en train de faire un step, et surtout aux États-Unis. Donc, je trouve vraiment que Liberty l'a fait un bon job.
Eh ben je peux me permettre de vous poser une dernière question, Sébastien, mais c'est vraiment sur votre personnel. Votre plus grand souvenir dans votre carrière de pilote, que ce soit en Formule 1, en endurance, en Formule E ou peut-être même avant au karting, la seconde en sport méca que vous retiendrez jusqu'à votre dernier souffle.
Honnêtement, je crois que c'est mon premier départ en F1. J'ai grandi toute ma vie en ayant depuis l'âge de 5 ans le rêve, l'objectif de devenir pilote de Formule 1. Et c'est vrai que je me rappellerai toujours ce premier départ en 2009, premier départ avec les petits ailerons très hauts, je ne sais pas si vous vous souvenez. Okay. Et là, je réalise que le mec qui est devant moi, c'est Nakajima avec la Williams. Je crois que je pars 13e, un truc comme ça, lui il est parti 11e. Et là, je réalise que je ne vois même pas les feux. Je réalise d'un coup que je ne vois pas les feux. Et c'était vraiment... À partir de la deuxième course, ils ont augmenté les feux d'un mètre parce que personne ne les voyait. Et là, je réalise que pour mon premier départ, je ne vois même pas les feux. Donc là, ça a été un moment de solitude terrible. J'ai pas, presque perdu mes moyens. Donc voilà, c'est un moment que je vais bien me rappeler. En plus, je marque des points, je termine 7e de ma première course. Donc c'était un super souvenir. Mais là, voilà, mon premier départ était assez incroyable.
Il faut le dire, à l'époque, vous êtes le 4e plus jeune pilote de tous les temps à marquer des points.
Ouais, à l'époque, ouais. Maintenant, voilà. Je crois que j'ai dû dégringoler un peu dans
le. Oui, bien sûr, mais ça, le talent était là et on l'a vu ensuite.
Ouais, bon, alors le prochain départ, ça sera samedi prochain à midi, heure française, hein, un petit peu plus tard pour vous dans la journée, Sébastien. Merci beaucoup d'être venu
participer. Merci à vous.
Voilà. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, c'était vraiment très, très, très intéressant.
Merci bien. Je vous souhaite une bonne après-midi.
Bonne dernière course, bonne fin de championnat, et puis préparez-vous bien pour la suite. Ça ne s'arrête jamais pour Sébastien Buemi.
Merci. Au revoir.
À bientôt.
Merci Sébastien.
Et ben voilà Stéphane, c'était un moment très très sympa avec Sébastien Buemi. Très très humain comme garçon, très timide. Quand on le croise les premières fois sur les circuits, c'est quelqu'un qui est très réservé. Finalement, on le voit très humain. Quand on l'entend parler de Jean-Paul Driot, on sent bien qu'il y a un caractère humain, la fidélité, tout ça, c'est vraiment de l'humain pur et dur.
C'est un super exemple pour les jeunes pilotes. Franchement, on parlait de fidélité, loyauté. C'est travailler pour un grand constructeur, être conscient de cette chance-là, de grandes équipes. C'est peut-être pas toujours le cas chez les jeunes. Donc, regardez la carrière de Sébastien Buemi, comment est-ce qu'il est. On nous le décrit toujours comme un pilote humain, comme tu dis, et super pro.
Accessoirement, ça fait 13 ans qu'il est dans le giron Red Bull en Formule 1. J'aimerais bien savoir combien sont capables de tenir aussi longtemps dans cette équipe, on le sait, qui est intransigeante. Bref, si vous voulez voir Sébastien Buemi en action, ça sera samedi midi sur Eurosport. On va se faire de la pub, hein, pourquoi pas, avec les 8 heures de Bahreïn qui seront la dernière épreuve du championnat du monde d'endurance. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière, eh bien, vous recevrez directement le prochain épisode des Fous du Volant sur votre smartphone. Stéphane, on a tout dit. C'est à toi
de conclure.
Exactement.
Tout à fait. Et on se quitte sur la formule consacrée. On coupe le contact.
Coupe le contact.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.